Maurice Maeterlinck, Le temple enseveli. La chance. 1. Il y avait une fois deux frères, dit un vieux conte serbe. L'un était actif et malheureux, l'autre paresseux et comblé de prospérité. Le frère malheureux rencontre un jour une belle jeune fille qui gardait des moutons en filant un fil d'or. « À qui appartiennent ces moutons » demande-t-il. « Ils appartiennent à qui j'appartiens. »« À qui appartiens-tu ? » ?»« À ton frère. Je suis son bonheur. » »« Et mon bonheur, où est-il ? » ?»«
Bien loin de toi. » »«
Puis-je le trouver ? » ?»«
Oui. » Si tu le cherches.
Il s'en va donc à la recherche de son bonheur. Un soir, dans une grande forêt, il découvre, endormie sous un arbre, une pauvre vieille femme à cheveux gris. Il la réveille et lui demande qui elle est. « Tu ne me connais pas, » répond-elle. « Il est vrai que tu ne m'as jamais vue. Je suis ton bonheur. »
« Et qui donc ?» m'a donné un si misérable bonheur.
La destinée. Puis-je trouver la destinée?
Peut-être à force de la chercher.
Il part à la recherche de la destinée. Après de longues routes, on la lui montre enfin. Elle vit dans le luxe d'un immense palais. Mais de jour en jour, ses richesses diminuent. Et les portes, les fenêtres et les murs de sa demeure se contractent. Elle lui explique qu'elle passe ainsi, alternativement, de la misère à l'opulence, et que la situation où elle se trouve à un moment donné détermine l'avenir de tous les enfants qui naissent à ce moment. « Vous êtes venu au monde, ajoute-t-elle, aux heures où ma fortune décroissait. De là tous vos malheurs. » Elle lui conseille, pour conjurer ou pour tromper le mauvais sort, de substituer à sa chance celle de sa nièce Militza, qui est née durant cette période propice. Pour opérer cette substitution, il suffira qu'il prenne chez lui cette nièce et déclare à qui l'interroge que tout ce qu'il possède appartient à Militza. Il suit ce conseil, et ses affaires changent de face. Ses troupeaux engraissent et multiplient, ses arbres rompent de fruits. Il lui échoit des héritages imprévus, ses terres se couvrent de moissons prodigieuses. Mais un matin que, immobile dans son bonheur, il contemple un admirable champ de blé, un étranger lui demande en passant « À qui appartiennent ces épis magnifiques qui se balancent sous la rosée ?» Deux fois plus haut et plus lourd que les épis voisins. Il s'oublie et répond « Ils sont à moi. » Aussitôt, le feu prend à l'autre bout du champ et commence ses ravages. Il se rappelle alors le conseil négligé, court après l'étranger et lui crie « Je me trompe. Je ne t'ai pas dit vrai, arrête-toi, reviens. Ce champ n'est pas à moi, mais à ma nièce Militza. » Subitement, entendant ces paroles, les flammes tombent et les épis repoussent. 2. Cette image naïve et très ancienne montre que le mystérieux problème de la chance ne s'est guère modifié depuis que l'homme commença de l'interroger. Elle pourrait encore illustrer notre ignorance actuelle. Nous avons nos pensées qui nous façonnent un bonheur ou un malheur intime, sur lequel les accidents du dehors ont plus ou moins d'influence. Il en est chez qui ces pensées sont devenues si puissantes, si vigilantes, que rien ne peut plus, sans leur agrément, pénétrer dans l'édifice de cristal et d'airain qu'elles ont su élever sur une colline qui domine la route habituelle des aventures.
Nous avons notre volonté qui, nourrie de nos pensées et soutenue par elles, parvient à écarter un grand nombre d'événements inutiles ou nuisibles. Cependant, autour de ces îlots plus ou moins sûrs, plus ou moins inexpugnables, s'étend une région aussi insoumise, aussi vaste que l'océan, où il semble que le hasard règne seul, comme le vent sur les flots. Nulle pensée, nulle volonté ne peuvent empêcher un de ces flots d'inopinément surgir, de nous surprendre, de nous étourdir, de nous blesser. Leur bienfaisante action ne recommence qu'après la vague qui s'est retirée. Alors elle nous relève, nous pense, nous ranime, et veille à ce que le mal que le choc nous a fait ne pénètre pas jusqu'aux sources profondes de la vie. À cela se borne leur rôle. En apparence, il est très humble. En réalité, à moins que le hasard ne prenne la forme irrésistible d'une maladie cruelle ou de la mort, il rend ce hasard presque impuissant et suffit à maintenir ce qu'il y a de meilleur et de plus propre à l'homme dans le bonheur humain. 3. Entre les actes que nous avons prévus, autour des faits que nous déterminons et qui tracent péniblement les grandes lignes de notre existence, se presse et circule la redoutable multitude des hasards aux aguets. L'air que nous respirons, l'espace où nous nous mouvons, le temps que nous traversons sont peuplés de circonstances qui nous attendent et nous choisissent dans la foule. À observer leurs habitudes, on constate bientôt que ces étranges filles du hasard, qui devraient être aveugles et sourdes comme leur père, n'agissent nullement au hasard. Elles savent ce qu'elles font et se trompent rarement. Avec une certitude inexplicable, elles reconnaissent le passant qui s'avance et devant lequel elles doivent se dresser. Que deux hommes suivent à la même heure le même chemin, il n'y aura ni hésitation, ni confusion dans la double troupe invisible apostée par le sort. À l'arrivée de l'un, se rangent les vierges blanches avec les palmes, les amphores et les mille bonheurs imprévus de la route. À l'approche de l'autre, les mauvaises femelles qu'Eschyle nous a peintes s'élancent hors des taillis, comme si elles avaient à venger sur leur ignorante victime quelque offense inexplicable et antérieure à sa naissance. 4. Tous, nous avons plus ou moins suivi par la vie la destinée de certains êtres auxquels advenaient des bonheurs ou des malheurs que leurs actes n'avaient point préparés, et qui soudain, au tournant d'une rue, semblaient jaillir du sol ou tomber des étoiles, parfaits, gratuits, inévitables. L'un qui ne songeait même pas à un emploi dont un rival mieux armé lui barrait l'accès, voit disparaître ce rival à la minute décisive. L'autre, qui comptait sur la protection d'un ami très puissant, voit mourir cet ami au moment même que ce dernier tendait la main pour lui venir en aide. Celui-ci, qui n'a ni talent ni beauté et ne sait rien prévoir, arrive chaque matin au palais de la fortune, de la gloire ou de l'amour, à la brève seconde où toutes les portes sont ouvertes. Celui-là, qui est plein de mérite et a longuement médité sa démarche légitime, s'y présente à l'heure même où la malchance le ferme pour un demi-siècle. Tel risque 20 fois sa santé dans des prouesses imbéciles et l'en retire intact. Et l'autre la hasarde prudemment dans une aventure honorable et la perd sans retour. Des milliers d'inconnus travaillent obscurément à aider le premier sans l'avoir jamais vu. Des milliers d'inconnus entravent l'œuvre du second sans savoir qu'il existe. Et les uns et les autres ignorent ce qu'ils font, séparés par des mers Ils obéissent au même ordre diffus et minutieux. Puis, à l'heure prescrite, les pièces détachées de l'énorme machine se rejoignent et s'emboîtent. Et voilà deux destinées complètes et dissemblables que le temps met en branle. 5. Le docteur Foissac, en un curieux livre sur la chance et la destinée, énumère d'innombrables et étranges exemples de l'iniquité fondamentale, préétablie, obstinée, irréductible, où baigne la plupart des existences. On croirait à le suivre, pénétrer avec lui dans les déconcertants laboratoires d'un autre monde, où l'on ne trouve, pour peser et répartir le bonheur et le malheur, rien qui rappelle les instruments indispensables à la justice, à la raison humaine. C'est, entre autres, la vie de l'admirable Vauvenargues, le plus infortuné des grands sages, qui, malgré son génie, sa beauté morale, sa bravoure, ses efforts, brisé et défiguré par de cruelles maladies au moment où sa fortune se trouvait en suspens, va chaque jour d'une déception imméritée à une injustice gratuite, et meurt à 32 ans, à l'heure même où l'on allait reconnaître son œuvre. C'est l'effroyable histoire de Le Surque, dans laquelle mille coïncidences, qu'on dirait, guidées par l'enfer, accourent et s'accumulent pour perdre un innocent, sans que la vérité, enchaînée par le sort et qui hurle en silence sous la foule des erreurs, qui la cherche, comme on hurle en silence, au fond d'un mauvais rêve, puisse faire un seul geste pour déchirer la nuit. C'est encore l'aventure d'Aymar de Ranconnet, président du Parlement de Paris, le plus probe des hommes, qui, injustement dépouillé de sa charge, voit sa fille mourir sur un fumier, son fils périr de la main du bourreau et sa femme écrasée par la foudre, tandis qu'il est lui-même accusé d'hérésie et qu'enfermé à la Bastille, il y meurt de douleur avant son jugement. Nous estimons fabuleuses et invraisemblables les calamités des Atrides et d'Œdipe. Et cependant, nous voyons dans l'histoire contemporaine la fatalité s'acharner avec la même opiniâtreté sur certaines familles, comme celle des Coligny, des Stuart, etc., ou poursuivre jusque dans la mort, d'une haine personnelle, quelques victimes innocentes et hagardes, telles qu'Henriette d'Angleterre, fille de Henri IV, Louise de Bourbon, Joseph II et Marie-Antoinette. Et, dans un ordre un peu différent, que dire de l'injustice inintelligente, mais qui paraît presque consciente, systématique, des jeux de hasard, des duels, des batailles, des tempêtes, des naufrages, de la flamme, de la foudre. Que dire de l'incroyable chance d'un Chastenay de Puységur, qui, après avoir servi 40 ans, prit part à 30 combats et à 120 sièges, toujours au premier rang, et d'une intrépidité légendaire, n'avait jamais été atteint par le fer ou par le plomb. Alors que le maréchal Oudinot fut blessé 35 fois et que le général Trézel, à chaque rencontre, recevait une balle. Que dire encore de l'extraordinaire fortune d'un Lauzin, d'un Chamillard, d'un Casanova, d'un Chesterfield, etc. De l'inconcevable et persistant bonheur dans le crime de Sylla, de Marius, de Denis l'Ancien, lequel, arrivé à la plus extrême vieillesse, après une vie odieuse, mais bénie par le sort, mourut de joie en apprenant que les Athéniens venaient de couronner une de ses tragédies. Que dire, enfin, de la destinée d'Hérode surnommé le Grand ou l'Ascalonite, qui nagea dans le sang, fit périr une de ses femmes, cinq de ses enfants, tous les hommes vertueux qui lui portaient ombrage, et fut heureux dans toutes ses entreprises. 6. En ces exemples fameux, qu'on pourrait indéfiniment multiplier, sont agrandis aux proportions anormales de l'histoire les spectacles plus humbles, mais non moins tranchés, que nous offrent chaque jour, sur la petite scène mal éclairée de l'ordinaire de la vie, les mille et un caprices de la chance heureuse ou contraire. Certes, en interrogeant ces bonheurs insolents et ces invariables malheurs, il faut d'abord faire une part royale aux causes physiques et morales qui les peuvent expliquer. Il est probable que si nous avions connu Vaunargues, nous aurions découvert dans son caractère la timidité, l'irrésolution ou la fierté inopportune qui l'empêchèrent de faire naître ou de saisir assez vigoureusement l'occasion. Il est possible que le Turc ait manqué d'habileté, de je ne sais quoi de cette force intime et prodigieuse qu'on s'attend à trouver dans l'innocence faussement accusée. Il est certain que les Stuarts, Joseph II et Marie-Antoinette, commirent d'énormes fautes qui éveillèrent les désastres. Que Lauzun, Casanova, Lord Chesterfield s'étaient débarrassés de la plupart des scrupules nécessaires qui entravent l'honnête homme. Il est également certain que si l'existence de Sylla, de Marius, de Denis l'Ancien, d'Hérode, l'Ascalonite, fut en dehors heureuse jusqu'au miracle, aucun de nous, je pense, ne se contenterait de l'étrange fantôme inquiet, ensanglanté, presque sans sentiment et presque sans pensée, que doit être en dedans un bonheur, si le mot bonheur est encore applicable, fondé sur des crimes incessants. Mais ce décompte fait aussi raisonnablement, aussi largement que possible, et plus on voit et étudie la vie, plus on pénètre dans le secret des petites causes et des grands effets, plus largement il se fera, en ces coïncidences opiniâtrement répétées, en ces séries indissolubles de bonne chance ou d'infortune. Il y a longtemps que l'on a remarqué que le bonheur ou le malheur procède presque toujours par séries ininterrompues. Il n'en reste pas moins une part considérable, souvent capitale, parfois exclusive, qu'on ne saurait attribuer qu'à l'impénétrable, mais incontestable volonté d'une puissance inconnue, mais réelle, appelée hasard, fatalité, destin, veine, guignon, bonne ou mauvaise étoile, aile de l'ange blanc, aile de l'ange noir et de bien d'autres noms, selon le génie plus ou moins imaginatif, plus ou moins poétique, des peuples et des siècles. C'est là, pour l'homme, l'un des problèmes les plus troublants et les plus difficiles, parmi tous ceux qu'il lui faudra résoudre, pour se sentir un jour l'occupant principal, légitime, indépendant et irrévocable de cette terre. 7. Posons-le devant la raison dans ses termes les plus simples, et voyons d'abord s'il n'intéresse que l'homme. Nous avons avec nous, sur ce globe assez incompréhensible, de silencieux et fidèles compagnons d'existence. Il est souvent utile de chercher du regard quand la tête nous tourne sur certaines hauteurs, peut-être illusoires, où nous nous imaginons volontiers que les astres, les dieux, où les représentants voilés des lois suprêmes de l'univers ne s'occupent que de nous. En leur résignation si confiante et si calme, ils ont l'air, ces pauvres frères de notre vie animale, de savoir bien des choses que nous ne savons plus. Mais ils gardent tranquillement un secret que nous poursuivons avec tant d'inquiétude. Il est certain que les animaux, notamment les animaux domestiques, ont une sorte de destin. Ils connaissent le bonheur gratuit et prolongé, et le malheur fortuit et opiniâtre. Il pourrait, comme nous, parler d'étoiles, de chance ou de malchance, de veine ou de guignon. Le sort du cheval de fiacre, qui finit à la fourrière après avoir passé par les mains de 100 bourreaux anonymes, comparé à celui du pur sang, qui meurt de vieillesse dans l'écurie d'un maître compatissant, est aussi inexplicable, au point de vue de la justice, à moins d'avoir recours aux doctrines bouddhiques qui y voient la récompense ou le châtiment d'une vie antérieure, que celui de l'homme, devenu pauvre par hasard, ou riche sans mérite. Il y a en pays flamand une race de chiens de trait sur laquelle le destin épuise tour à tour sa faveur et sa haine. Qu'un boucher les achète, ils mènent une vie magnifique. Peu de travail. Le matin, attelés en quadrige, ils traînent aux abattoirs une légère voiture et l'en ramènent le soir, débordante de viande, dans un galop joyeux et triomphal, par les rues tortueuses des vieilles villes aux petits pignons éclairés. Dans l'entretemps, tout est loisir, et loisir merveilleux, parmi les rats et les déchets de l'abattoir. Ils sont plantureusement nourris, gras, lustrés comme des otaries, et goûtent dans sa plénitude le seul bonheur que doivent rêver l'âme naïve et furuteuse d'un bon chien. Mais leur malheureux frère de la même portée qu'acquiert le vieillard qui ramasse les ordures ménagères, ou le marchand de sable, presque toujours boiteux, ou le paysan pauvre aux gros sabots cruels, enchaîné à de lourdes charrettes, à d'informes brouettes, pouilleux, pelés, galeux, affamés, efflanqués, parcourt jusqu'à la mort les cercles d'un enfer où les plongèrent quelques sous mis dans une main calleuse. Et dans un monde moins directement assujetti à l'homme, on trouve évidemment des perdrix, des faisans, des biches, des lièvres qui n'ont guère de chance et sont blessés à chaque rencontre du chasseur, alors qu'il en est d'autres qui, on ne sait comment, ni par quel privilège, échappent à toutes les battues. Ils sont donc soumis, comme nous, à d'incontestables injustices. Mais nous ne songeons point, à propos de ces injustices, à mettre en branle tous les dieux, à interroger les puissances occultes. Et pourtant, ce qui leur arrive n'est peut-être que l'image naïvement simplifiée de ce qui nous arrive. Il est vrai que, pour eux, nous représentons précisément ces puissances occultes que nous cherchons dans notre ciel. Mais alors, sommes-nous en droit d'attendre de ces dernières beaucoup plus de conscience et de justice intelligente que nous n'en témoignons à l'égard des animaux? En tout cas, quand cet exemple n'aurait fait qu'enlever au hasard un peu de son inutile prestige pour augmenter d'autant notre esprit d'initiative et de lutte, ce serait déjà un gain non négligeable. 8. Malgré ce nouveau décompte, on ne saurait nier qu'il y ait, tout au moins pour la vie plus complexe de l'homme, par-delà tout ce que nous avons dit, dans la volonté souvent visible du hasard, cette menue monnaie de la fatalité, une cause de bonheur ou de malheur que nos explications n'atteignent pas encore. Nous savons, et cela fait partie de ces idées informes, mais fondamentales, sur les lois de la vie qu'une expérience millénaire a transmuées en une sorte d'instinct, nous savons qu'il existe des hommes qui, toutes autres choses égales, ont la main heureuse ou malheureuse. Il m'a été donné de suivre de fort près la carrière d'un ami, victime d'une persistante malchance. Je n'entends pas par là que sa vie fut malheureuse. Il est même remarquable que les hasards contraires respectèrent toujours les grandes lignes de son bonheur réel, probablement parce qu'elles étaient bien défendues. Car il y avait en lui une forte existence morale, des pensées, des espoirs, des certitudes, des sentiments profonds. Il n'ignorait point que ses biens se trouvaient à l'abri d'un coup du sort et que rien, sans son aide, n'aurait pu les détruire. Le destin n'est pas invincible, c'est-à-dire que la voie centrale de l'existence, le grand canal intérieur, se laisse détourner vers le bonheur ou le malheur, bien que ses ramifications, qui s'étendent sur les jours et les mille affluents qui viennent y verser les hasards du dehors, échappent à notre volonté. C'est ainsi qu'un beau fleuve, descendu des hauteurs, et tout resplendissant de la noblesse des glaciers, traverse enfin les plaines et les villes, où il ne reçoit plus qu'une eau empoisonnée. Il se trouble un instant, et nous croyons qu'il perd, pour ne plus la reprendre, l'image du ciel pur qu'il avait emprunté au bassin des fontaines, et qui semblait son âme et l'expression profonde et limpide de sa force. Pourtant, rejoignez-le là-bas, sous ces grands arbres. Il y oublie déjà les souillures des ruisseaux. Il ressaisit l'azur dans ses flots transparents et le porte à la mer, aussi clair qu'il était quand il riait encore aux sources des montagnes. Aussi, l'ami dont je vous parle, quoiqu'il ait pleuré plus d'une fois, ne pleura-t-il jamais ces larmes qu'on verse sur la mort de soi-même et qui ne sortent plus de notre souvenir? Aussi, chaque mécompte, après l'énervement inévitable, n'arrivait-il, en somme, qu'à le rapprocher davantage de son bonheur secret, à concentrer celui-ci, à le circonscrire d'un trait plus sombre pour le faire paraître plus précieux, plus ardent et plus sûr. Mais sitôt qu'il quittait cet enclos enchanté, les incidents hostiles l'assaillaient à l'envi. Il était, par exemple, fort bon tireur à l'épée, eut 3 duels et fut blessé 3 fois par des adversaires moins habiles. S'il s'embarquait, la traversée était rarement heureuse. S'il mettait quelque argent dans une affaire, celle-ci tournait mal. Une erreur judiciaire, où l'impliqua tout un enchaînement de circonstances étrangement malveillantes, fut pour lui la source de longs et sérieux ennuis. En outre, de visage agréable et l'œil plein de franchise et de bonté, il n'était pas ce qu'on appelle sympathique. Il n'attirait point d'abord cette première affection spontanée que nous donnons souvent, et sans savoir pourquoi, à l'inconnu qui passe, à un ennemi même. Sa vie sentimentale ne fut guère plus favorisée que l'autre. Aimant et infiniment plus digne d'être aimé que la plupart de ceux auxquels le sacrifia le cœur fortuit des femmes, là encore, il ne trouva que trahison, chagrins et déceptions. Il allait ainsi, se tirant de son mieux des médiocres pièges que lui tendait à chaque pas son ingrate fortune. Non découragé ni intimement attristé, mais un peu étonné de tant d'acharnement, jusqu'à ce qu'il rencontrât enfin la seule et grande chance de sa vie, un amour égal à celui qui attendait en lui, exclusif, passionné, complet, inaltérable. À partir de cette heure, comme sous la bienfaisante influence d'une étoile nouvelle qui mêlait ses rayons à la sienne, il sentit peu à peu les événements fâcheux s'espacer, s'alentir, s'éloigner et prendre une autre route. On eût dit qu'il quittait à regret l'habitude de le suivre. Il vit réellement tourner la chance. Et voici qu'aujourd'hui, rentré dans l'atmosphère indifférente et neutre du hasard commun à la plupart des hommes, il se rappelle en souriant le temps où chacun de ses gestes, épié par l'ennemi insaisissable, suscitait un danger. 9. N'appelons pas les dieux pour expliquer ces phénomènes. Ils n'auront qualité pour nous expliquer quelque chose qu'après qu'ils se seront clairement expliqués sur eux-mêmes. Et le destin, qui n'est que le plus inconnu d'entre eux, a moins que tous les autres le droit d'intervenir et de nous crier, comme il fait du fond de son inébranlable nuit, « C'est moi qui l'ai voulu ». N'invoquons pas davantage les lois illimitées de l'univers, les desseins de l'histoire, la volonté des mondes, la justice des étoiles. Ces puissances existent et nous les subissons comme nous subissons la puissance du soleil. Mais de même que celle-ci agit sans nous connaître, il nous reste une liberté, probablement immense, dans le cercle démesuré de leurs influences, et elles ont mieux à faire qu'à se pencher sur nous pour poser un brin d'herbe ou soulever une feuille dans le petit sentier de notre fourmilière. Puisqu'il s'agit de nous, de notre vie étroite, c'est, je pense, en nous-mêmes que se trouve la clé du mystère, car il est vraisemblable que tout être porte en soi la meilleure solution du problème qu'il propose. Il y a en nous, sous notre existence consciente, soumise à la raison et à la volonté, une existence plus profonde, qui plonge d'une part dans un passé que l'histoire n'atteint pas, et de l'autre dans un avenir que des milliers d'années n'épuiseront jamais. Il n'est pas téméraire de croire que les dieux s'y cachent et que ceux dont nous avons peuplé la terre et les planètes en sortirent tour à tour pour lui donner un nom et une forme que notre imagination put comprendre. À mesure que l'homme voit plus clair, qu'il a moins besoin de symboles et d'images, il diminue le nombre de ses noms, le nombre de ses formes. Il arrive, peu à peu, à n'en prononcer qu'un, à n'en réserver qu'une, et soupçonne bientôt que cette dernière forme et que ce dernier nom ne sont eux-mêmes que la dernière image d'une puissance dont le trône fut toujours en lui-même. Les dieux rentrent alors en nous d'où ils étaient sortis, et c'est là qu'aujourd'hui nous les interrogeons. 10. Je crois donc que c'est dans notre vie inconsciente, énorme, inépuisable, insondable et divine qu'il faut chercher l'explication de nos chances heureuses ou contraires. En nous se trouve un être qui est notre moi véritable, notre moi premier-né, immémorial, illimité, universel et probablement immortel. Notre intelligence, qui n'est qu'une sorte de phosphorescence sur cet océan intérieur, ne le connaît encore qu'imparfaitement. Mais chaque jour, elle apprend davantage que là gisent sans doute tous les secrets des phénomènes humains qu'elle n'a pas compris jusqu'ici. Cet être inconscient vit sur un tout autre plan et dans un autre monde que notre intelligence. Il ignore le temps et l'espace, ces deux murailles formidables et illusoires, entre lesquelles doit couler notre raison sous peine de se perdre. Pour lui, il n'y a ni proximité, ni éloignement, ni passé, ni avenir, ni résistance de la matière. Il sait tout et peut tout. Du reste, on a toujours admis à des degrés divers cette science et cette puissance, et l'on a donné à ces manifestations les noms d'instinct, d'âme, d'inconscient, de subconscient, de mouvement réflexe, d'intuition, de pressentiment, etc. On lui attribue notamment cette force indéterminée et souvent prodigieuse de ceux dont nos nerfs, qui ne servent pas directement à produire notre raison et notre volonté, et qui est, apparemment, le fluide essentiel, le rayon ultraviolet de la vie universelle. Il est vraisemblable que ce fluide est à peu de choses près de même nature chez tous les hommes. Mais il communique avec l'intelligence de façon très diverse. Dans les uns, ce principe inconnu demeure si profondément enseveli qu'il ne s'occupe que des fonctions physiques et de la permanence de l'espèce. Dans d'autres, au contraire, il paraît toujours en éveil. Il s'élève fréquemment jusqu'à affleurer de sa féerique présence la surface de la vie extérieure et consciente. À tout propos, il intervient, prévoit, avertit, décide et se mêle à la plupart des faits prépondérants d'une carrière. D'où vient cette faculté? On ne saurait le dire. Il n'y a pas de lois fixes et certaines. On ne découvre, par exemple, aucun rapport constant entre l'activité de l'inconscient et le développement de l'intelligence. Cette activité obéit à des règles que nous ignorons. Pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances, elle semble purement accidentelle. On la rencontre en celui-ci et non en celui-là, sans qu'aucun signe permette de soupçonner la cause de cette différence. 11. Qu'il s'agisse de chances heureuses ou contraires, voici ce qui probablement arrive. Un événement propice ou funeste, venu du fond des grandes lois éternelles, se dresse sur notre route et la barre tout entière. Il est là, immobile, fatal, démesuré, inébranlable. Il ne s'occupe pas de nous. Il n'est pas là pour nous. Il n'a de raison d'être qu'en soi et pour soi. Il nous ignore simplement. C'est nous qui nous approchons de lui et qui, arrivés à portée de son influence, avons à le fuir ou à l'affronter, à le tourner ou à le traverser. Je suppose que l'événement soit néfaste. Un naufrage, un incendie, un coup de foudre, ou la mort, la maladie, l'accident, la détresse, sous une forme un peu anormale. Il attend, invisible, aveugle, indifférent, parfait, inaltérable, mais encore en puissance. Il existe tout entier, mais seulement dans l'avenir. Et pour nous, dont les sens au service de notre intelligence et de notre conscience sont construits de telle sorte qu'ils ne perçoivent les choses que successivement dans le temps, il est encore comme s'il n'était pas. Prenons, pour préciser davantage, qu'il s'agisse d'un naufrage. Le navire qui doit périr n'est pas sorti du port. Le roc ou l'épave qui le déchirera dort paisiblement sous les flots. Et la tempête, qui n'éclatera qu'à la fin du mois, sommeille, par-delà les regards, dans le secret des cieux. Normalement, si rien n'était écrit, et si déjà la catastrophe n'avait eu lieu dans l'avenir, 50 passagers, venus de 5 ou 6 pays divers, se fussent embarqués. Mais le navire est bien marqué par le destin. Il est certain qu'il doit périr. Aussi, depuis des mois, peut-être depuis des années, une mystérieuse sélection s'est-elle opérée parmi les voyageurs qui auraient dû partir le même jour. Il est possible que sur ces 50 voyageurs primitifs, 20 seulement montent à bord au moment où l'ancre se lève. Il se peut même que pas un des 50 ne réponde à l'appel des circonstances qui, n'eût été le désastre futur, eussent nécessité leur départ, et qu'ils soient remplacés par 20 ou 30 autres en qui la voix du hasard ne parle pas avec la même force. Ici, où l'on plonge au plus profond de la plus profonde des énigmes humaines, l'hypothèse s'égare forcément. Mais en présence de ce fait imaginaire, qui ne sert qu'à mettre en évidence ce qui se produit si souvent dans les conjonctures plus réduites de la vie quotidienne, Au lieu d'avoir recours à des dieux lointains et douteux, n'est-il pas plus naturel de présumer que notre inconscient agisse et décide? Il connaît, il doit connaître, il doit voir la catastrophe, puisque pour lui, il n'y a ni temps ni espace, et qu'elle a lieu en ce moment sous ses yeux, comme elle a lieu sous les yeux des forces éternelles. Peu importe la manière dont il prévient le mal. Parmi les 30 voyageurs avertis, 2 ou 3 auront eu le pressentiment réel du danger. Ce sont ceux en qui l'inconscient est plus libre et atteint plus facilement les premières couches encore obscures de l'intelligence. Les autres ne se douteront de rien, maudiront des retards et des contrariétés inexplicables, feront tout ce qu'ils peuvent pour arriver à temps, mais ne partiront point. Ceux-ci tomberont malades, se tromperont de route, changeront leurs projets, rencontreront une aventure insignifiante, auront une querelle, un amour, un moment de paresse ou d'oubli qui les retiendra malgré eux. Ceux-là n'auront jamais songé à s'embarquer sur le navire prédestiné, alors que c'est le seul qu'ils eussent dû logiquement, fatalement choisir. Chez la plupart, ces efforts de l'inconscient pour les sauver s'effectuent à de telles profondeurs que l'idée qu'ils doivent la vie à leur heureuse chance ne leur vient même pas à l'esprit, et qu'ils croient de bonne foi n'avoir jamais eu l'intention de monter sur le vaisseau marqué par les puissances de la mer. Pour ce qui est de ceux qui, fidèlement, sont arrivés au fatal rendez-vous, ils appartiennent à la tribu infortunée. Ils forment une race plus malheureuse dans notre race. Quand tous les autres fuient, eux seuls restent en place. Quand les autres s'écartent, confiants, ils se rapprochent. Ils prennent infailliblement le train qui déraillera, passent à leur voulu sous la tour qui s'écroule, entrent dans la maison où déjà le feu couve, traversent la forêt que l'éclair va percer, portent ce qu'ils possèdent au banquier qui va fuir, font le pas et le geste qu'il ne fallait point faire, aiment la seule femme qu'ils eussent dû éviter. Au rebours, s'il s'agit de bonheur, lorsqu'accourent les autres, attirés par la voix profonde des forces bienveillantes, ils passent sans l'entendre et jamais prévenus, livrés au seul conseil de leur intelligence, le vieux guide, très sage, mais à peu près aveugle, qui ne connaît que les petits sentiers au pied de la montagne. Il s'égare dans un monde que la raison humaine n'a pas encore compris. Certes, ils ont sujet d'accuser le destin, mais non comme ils l'entendent. Ils ont le droit de lui demander pourquoi il n'a pas mis en eux le veilleur avisé qui protège leurs frères. Mais ce reproche fait, qui est le grand reproche aux injustices irréductibles, ils n'ont plus à se plaindre. L'univers ne leur est point hostile. Les calamités ne les poursuivent pas. Ils vont à elles. Les choses du dehors ne leur veulent pas de mal. Ils se donnent aux maux. Le malheur qu'ils saisissent ne les a pas guettés. Eux-mêmes l'ont choisi. Au long de leurs années, ainsi qu'au long de celles de tout homme, les événements attendent, comme des marchandises dans un bazar, attendent le chaland qui doit les acquérir. Personne ne les trompe. Ils se trompent, simplement. Rien ne les persécute. Mais leur âme inconsciente ne fait pas son devoir. Est-elle plus maladroite ou moins attentive? Dort-elle sans espoir au fond d'une prison mieux close que les autres? Et nulle volonté ne peut-elle la tirer d'un sommeil si funeste ni ébranler les redoutables portes qui mènent de la vie qui sait tout sans conscience à celle qui ignore avec intelligence. 12. Un ami devant qui j'agitais ces problèmes me dit hier « La vie qui nous interroge mieux que les philosophes va me forcer, aujourd'hui même, à ajouter une question assez étrange à vos questions. Qu'arrive-t-il lorsque deux chances, c'est-à-dire deux inconscients contraires, l'un heureux et habile, l'autre maladroit et infortuné, s'unissent et se confondent en quelque sorte dans la même aventure, dans la même entreprise. Lequel l'emportera? Je le saurai bientôt. Je vais faire cet après-midi une démarche importante dont dépendent presque entièrement l'avenir, la possibilité de vivre selon sa nature et ses droits, la fortune et tout le bonheur extérieur de l'être qui m'est le plus cher. En interrogeant mon passé, qui fut toujours clément, où le hasard me fut un ami prévoyant et fidèle, en me retournant pour revoir les 5 ou 6 moments qui, dans toutes les vies, sont comme les pivots d'or sur lesquels a roulé la chance favorable, j'ai foi en mon étoile, et je suis moralement sûr que la démarche, si elle n'intéressait que moi, réussirait sans peine, car j'ai la main heureuse. Mais la personne pour laquelle je la fais n'a jamais eu de chance. Avec l'intelligence la plus subtile et la plus étendue, avec une volonté 1000 fois plus prudente, plus ferme que la mienne, elle a, il faut le croire, un inconscient stupide ou malveillant qui l'oblige de parcourir, sans lui faire grâce d'une station, l'âpre route des injustices, des passe-droits, des coïncidences fâcheuses, des contretemps et des déceptions. Ne doutez pas qu'il l'eût embarqué de force sur le navire dont vous parliez. Je me demande donc de quelle façon mon inconscient, alerte et avisé, se conduira envers ce frère indolent et néfaste au nom duquel il doit agir et dont il va, pour ainsi dire, prendre la place. Comment et où se forme, en cet instant, la décision si grave à la recherche de laquelle je sortirai tout à l'heure? Pendant que je vous parle, quelle est donc la puissance qui pèse le pour et le contre, c'est-à-dire le bonheur et le malheur de celle que je représente? De quelle sphère, de quelle vertu peut-être immémoriale, de quel esprit caché ou de quelle étoile invisible tombera donc le poids qui fera pencher la balance vers l'ombre ou la lumière? En apparence, c'est la raison, c'est la volonté, l'intérêt des parties qui décident. Dans la réalité plus profonde, c'est souvent autre chose. Lorsqu'on se trouve ainsi en face du problème et que l'amour qu'on a pour ceux qui le subissent nous ouvre un peu les yeux, il ne semble plus aussi simple. Et l'on jette un regard étonné, anxieux et presque vierge sur tout l'inconnu qui nous mène et auquel nous obéissons. Je vais donc tenter cette démarche avec une émotion plus grande, avec plus de force et d'ardeur que si ma propre vie et mon propre bonheur se trouvaient en péril. Celle pour qui je la fais est en effet plus moi que tout moi-même, et depuis longtemps, son bonheur est la source du mien. Ma raison et mon cœur en sont bien convaincus, mais mon inconscient, le sait-il? Ma raison et mon cœur, qui forment ma conscience, ont à peine 30 ans, mais mon âme inconsciente, qui se souvient encore des secrets primitifs, compte peut-être des siècles. Elle évolue sans hâte. Elle est lente comme un monde qui tourne dans le temps, qui n'aura point de fin. Aussi ignore-t-elle probablement encore qu'une seconde existence est venue se mêler à la mienne et l'absorbe tout entière. Combien s'écouleront d'années avant que la grande nouvelle pénètre en sa retraite? Ici encore, elle est diverse et inégale. Chez l'un, elle apprend tout de suite ce qui se passe dans le cœur. Chez l'autre, elle ne prend qu'une part très tardive au phénomène de la raison. Du reste, il y a des amours où elle précède le cœur et la raison. L'amour maternel, par exemple. L'âme inconsciente d'une mère ne se sépare qu'à la longue de celle de ses enfants et veille d'abord sur ceux-ci avec bien plus de zèle et de sollicitude que sur la mère même. Mais dans un amour comme le mien, il est impossible de dire si elle sait ou ignore que cet amour m'est plus nécessaire que la vie. Pour moi, je crois qu'elle reste convaincue que la démarche que je vais faire au nom de cet amour ne me regarde en rien. Elle ne paraîtra pas et n'interviendra point. Au moment où je tends toute mon énergie, toutes mes espérances, plus que s'il était question de mon propre salut, elle vaque à ses mystérieuses besognes au fond de sa ténébreuse demeure. Si j'allais demander justice pour moi-même, elle serait déjà en éveil. Peut-être saurait-elle que ce n'est pas aujourd'hui qu'il convient que j'agisse. Je ne me rendrai nullement compte, j'imagine, de son intervention, mais elle susciterait quelque obstacle imprévu. Je tomberais malade, je ferais une chute, je serais attirée par un événement secondaire qui m'empêcherait d'arriver à l'heure défavorable. Puis, une fois en présence de celui entre les mains de qui se trouverait mon destin, ma vigilante amie me couvrirait de ses ailes, m'inspirerait son souffle, m'éclairerait de sa lumière. Elle me dicterait les paroles qu'il faudrait dire et qui répondraient seules aux objections secrètes du maître de mon sort. Elle m'imposerait l'attitude, les silences, les gestes. Elle me donnerait la confiance. Elle répandrait sur moi l'influence innommée qui, bien plus que les raisons de la raison et l'éloquence de l'intérêt, détermine souvent le choix des hommes. Tout cela, j'ai bien peur qu'elle ne s'abstienne de le faire. Elle ne se dérangera pas. Elle ne se montrera pas au seuil accoutumé. Obtuse, impénétrable à l'idée que ma vie n'est plus toute en moi-même, elle agira selon sa conviction tant de fois séculaire. Et, croyant me servir en faisant échouer ce qui, dans sa pensée, ne me regarde pas, elle me fera plus de mal. Elle me causera une douleur plus profonde que si elle me trahissait à l'approche de la mort. Je n'apporterai donc, en toute cette affaire, qu'un très pâle reflet, une sorte de fantôme de ma chance, et je me demande avec crainte s'il sera suffisant pour balancer la mauvaise volonté de la chance contraire dont je suis revêtue et que je représente. 13. Quelques jours après, mon ami m'apprit que sa démarche n'avait pas réussi. Il est possible qu'il ne doive cet échec qu'au hasard ou à son manque de confiance, car la confiance qui pressent le succès s'acharne à l'obtenir, déploie des ressources que ne connaissent pas l'hésitation et le doute, et ne démasque aucune de ces faiblesses involontaires dont sait profiter l'instinct de l'adversaire. Il est probable aussi qu'il y a beaucoup de vrai dans sa mise en scène de l'inconscient. Du reste, à une certaine profondeur, inconscient et confiance se confondent, et il est fort difficile de dire où commence le premier, où finit la seconde. Sans nous arrêter à cette recherche trop subtile, écoutons la vie nous poser d'autres questions plus directes au sujet de la chance, qui est une des grandes questions de la vie. Il en est d'un intérêt, pour ainsi dire, quotidien. Elle nous demande, par exemple, quelle conduite il nous faudra tenir envers les hommes incontestablement malchanceux et dont la mauvaise étoile est si funestement puissante qu'elle mène immanquablement au désastre tout ce qui s'aventure trop près de la sphère, souvent très étendue, de sa pernicieuse influence. Doit-on les fuir sans scrupule, comme le conseille le docteur Foissac? Oui, sans doute, si leurs malheurs proviennent d'un esprit imprudent, hasardeux, inattentif, brouillon, fumeux ou utopique. La malchance est une maladie contagieuse qui souvent se propage d'inconscient à inconscient. Mais s'il s'agit de malheurs réellement immérités, qui frappent ce que nous aimons, la fuite est injuste et honteuse. Ici, la partie libre et fière de notre être, qui ignore tant de choses, mais qui crée des vérités d'une autre nature, qui sont comme les premières fleurs d'un monde en formation, a le devoir de tenir tête à la sagesse universelle de l'inconscient, de braver ses avertissements et de l'entraîner dans sa ruine, qui est une victoire sur un plan qu'éclaire un idéal dont l'inconscient lui-même arrivera peut-être à tenir compte un jour. 14. Nous sommes ainsi amenés à nous demander si l'inconscient auquel nous attribuons notre chance est réellement immuable et imperfectible. Qui de nous n'a observé les bizarres habitudes de la chance? Elle semble, quand on la regarde, s'agiter dans une petite ville ou parmi un certain nombre d'hommes qu'on ne perd pas de vue. Une sorte de déesse obstinée et fantasque comme un temps. Selon l'être ou l'événement auquel elle s'attache, elle prend aussitôt une personnalité et un caractère bien tranché. Elle a des manies très diverses, mais elle est pour ainsi dire invariable en chacune d'elles. Suivant que l'on surprend le premier ou le second de ses gestes, il est impossible ou facile de prévoir ce qu'elle fera par la suite. Divinité protéenne que nulle image ne saurait entièrement envelopper, ici, elle surgit inopinément, comme un jet d'eau au milieu d'un désert, et disparaît après avoir donné naissance à une éphémère oasis. Là-bas, elle revient à intervalles réguliers, s'attroupe et s'éparpille, comme ces oiseaux migrateurs qui obéissent au rythme des saisons. À notre droite, elle renverse un homme et ne s'en occupe plus. À notre gauche, elle en terrasse un autre et s'acharne affreusement sur sa victime. Mais presque toujours, qu'il s'agisse de biens ou de maux, elle demeurera étonnamment fidèle au caractère qu'elle assuma une fois pour toutes, croirait-on, dans chaque cas particulier. Celui-ci, par exemple, qui n'a pas réussi à la guerre, n'y réussira jamais. Celui-là perdra ou gagnera régulièrement au jeu. Un autre sera inévitablement trompé. Un quatrième se verra persécuté par l'eau, le feu ou les accidents de la rue. Un cinquième se trouvera constamment heureux ou malheureux en amour, dans les affaires d'argent, et ainsi de suite. N'est-ce pas encore, sinon une preuve, du moins un indice, que ce n'est point hors de nous, mais en nous qu'elle règne, et que nous la formons et la revêtons d'une force cachée qui n'émane que de nous? Parfois, d'étranges revirements qui sont eux-mêmes des manies issues de ces manies déchirent brusquement ses habitudes et démentent son caractère pour le confirmer aussitôt après dans une autre atmosphère. On dit alors que la chance tourne. N'est-ce pas plutôt l'inconscient qui évolue? Son attention ou son habileté s'éveille-t-elle enfin? S'aperçoit-il à la longue que d'importants événements se déroulent dans le monde qui lui est superposé? Acquiert-il une certaine expérience, un rayon d'intelligence, Un éclair de volonté s'infiltre-t-il en sa retraite et le prévienne-t-il du danger? Apprend-il, au bout de nombreuses années, à la suite de cruelles épreuves, qu'il a intérêt à sortir de son apathie trop confiante? Les malheurs du dehors viennent-ils secouer son sommeil périlleux? Ou bien, s'il n'a jamais ignoré ce qui se passait au-dessus de sa prison, après de vains et pénibles efforts, parvient-il, au moment de l'urgence, à pratiquer une sorte de fissure dans l'énorme couche de siècles et d'indifférence qui le sépare de ses sœurs inconnues, la volonté et l'intelligence? Et réussit-il ainsi à prendre part à la vie éphémère dont dépend une partie de sa vie? 15. Aussi bien, reconnaissons-le, cette hypothèse de l'inconscient ne suffit pas à expliquer toutes les injustices de la chance. Les trois plus grandes, qui sont les trois malheurs les plus réels qui puissent atteindre l'homme, le frappent d'habitude dès avant sa naissance. Je veux dire la pauvreté absolue, la maladie, notamment sous ses formes odieuses, la misère physiologique et les infirmités incurables, la laideur repoussante et la difformité, et l'infériorité intellectuelle. Voilà les trois grandes prêtresses d'iniquité qui attendent et marquent l'innocence à l'entrée de la vie. Mais si leurs choix paraissent mystérieux, la triple source où elles puisent les trois maux sans remède est peut-être moins mystérieuse qu'on ne croit. Il n'est pas nécessaire de la faire remonter à une volonté préétablie, à des lois fatales et éternelles. La première de ces sources commence et finit son cours dans le domaine de l'homme. Et si l'on ignore pourquoi tel n'est pauvre et tel autre riche, on sait parfaitement en vertu de quelles injustices purement humaines il y a en ce monde trop de misère d'un côté et trop d'opulence de l'autre. Les dieux et les astres n'ont aucune part à cette iniquité. Quant aux deux autres, lorsqu'on leur aura enlevé tout ce qu'elles doivent à la pauvreté, mère de la plupart des misères physiques et morales, lorsqu'on en aura détourné tout ce qu'elles empruntent aux fautes antérieures des parents, fautes qui n'avaient rien d'inévitable, il restera quelques injustices acharnées dont on ne pourra rendre compte. Mais ce reste de mystère sera bien prêt de tenir dans le creux de la main du philosophe qui, plus tard, l'examinera plus à loisir. Aujourd'hui, il y a sagesse à ne pas entourer notre vie de malédictions ou d'ennemis imaginaires, à ne pas l'assombrir sans certitude suffisante. Et pour la chance quotidienne, admettons, en attendant mieux, que lorsque nous faisons l'histoire de notre fortune, qui n'est pas nécessairement l'histoire de notre bonheur réel, c'est-à-dire intérieur, puisqu'il est possible d'établir celui-ci au-dessus du hasard, nous faisons l'histoire de notre être inconscient. C'est plus vraisemblablement que de mêler l'éternité, les étoiles et l'esprit de l'univers à nos petites aventures. Et cela donne à notre courage une meilleure allure. Peut-être est-il aussi difficile de changer le caractère de notre inconscient que de modifier le cours de Mars ou de Vénus. Mais cela semble moins lointain et moins chimérique. Et dès que nous avons à choisir entre deux probabilités, il est de notre devoir le plus strict d'adopter celle qui entrave le moins notre espoir. Au surplus, si le malheur était réellement inéluctable, il y aurait je ne sais quelle consolation fière à se dire qu'il n'émane que de nous, que nous ne sommes pas les victimes d'une volonté méchante ou les jouets d'un hasard inutile. Mais qu'en subissant plus de maux que nos frères, nous ne faisons peut-être que décrire, dans le temps et l'espace, la même forme nécessaire de notre personnalité. Et tant que le malheur n'attaque pas la fierté intime de l'homme, celui-ci conserve la force de continuer la lutte et d'accomplir sa mission essentielle, qui est de vivre avec toute l'ardeur dont il est capable, comme si sa vie était plus importante que tout autre au destin de l'humanité. C'est aussi plus conforme à la vaste loi qui ramène en nous, un à un, tous les dieux dont nous avions rempli le monde. La plupart de ces dieux n'étaient que des effets dont les causes se trouvaient en nous-mêmes. À mesure que nous avançons, nous découvrons que beaucoup de forces qui nous dominaient et nous émerveillaient ne sont que des portions mal connues de notre propre puissance. Et il est probable que cela se confirmera chaque jour davantage. Si, rapprocher de nous, circonscrire en nous-mêmes une force inconnue, n'est pas encore la vaincre, c'est déjà quelque chose que de savoir où la trouver et où l'interroger. Nous sommes environnés de forces très obscures, mais celles avec qui nous avons le plus directement affaire est celle qui se trouve au foyer de notre être. Toutes les autres passent par elles, s'y donnent rendez-vous, y rentrent, y confluent, et ne nous intéressent que dans leur rapport avec elles. Cette dernière force, nous l'avons, pour la distinguer de la foule des autres, appelée notre force inconsciente. Le jour où nous aurons réussi à étudier de plus près cet inconscient, ses habiletés, ses préférences, ses antipathies, ses maladresses mystérieuses, nous aurons singulièrement émoussé les ongles et les dents du monstre qui nous persécute sous le nom de chance, de fortune, de destin. À cette heure, nous le nourrissons encore comme un aveugle nourrirait le lion qui doit le dévorer. Bientôt, peut-être, nous verrons le lion dans sa véritable lumière, et apprendrons alors à le dompter. Parcourons donc, sans nous lasser, tous les chemins qui mènent de notre conscience à notre inconscience. Nous arriverons ainsi à tracer une sorte de sentier dans les grandes routes encore impraticables qui vont de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas, de l'homme à Dieu et de l'individu à l'univers. Au bout de ces routes se cache le secret général de la vie. En attendant, adoptons l'hypothèse qui encourage notre vie dans cette vie universelle qui a besoin de nous pour percer ses propres énigmes, car nous sommes ceux en qui ces secrets achèvent de se cristalliser le plus rapidement, le plus limpidement.